La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est dans une cellule de prison que Genet est devenu écrivain, autodidacte, rédigeant pour lui-même, sans penser être jamais publié, des romans beaux et terribles. Il a fait un enfant dans le dos à la littérature française qui ne s'en est pas tout à fait remise. Problème, l'écrivain non plus ne s'en est pas tout à fait remis. Trop vite reconnu et encensé par Sartre notamment. On en a fait un saint et un martyr alors qu'il se voulait voyou. Cette gloire un peu trop lourde l'a peut-être stérilisé du point de vue littéraire, avant sa renaissance par le théâtre, puis par l'engagement politique, comme nous l'avons vu lundi dernier, c'était avec Albert Dichy, lors de notre émission biographique. Et puis demain, nous irons voir du côté sombre de l'écrivain, tel que l'a décrit Yvan Jablonka dans son livre « Les vérités inavouables de Jean Genet ». Que faisons-nous aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, pour parler à la fois du regard de Genet sur les arts plastiques et de la question de la sexualité dans ses textes et dans sa vie, nous sommes avec Agnès Van Nouvong, professeure en études de genre à l'Université de Genève, autrice d'un essai intitulé « Jean Genet, les revers du genre » publié aux presses du Réel en 2010, dans lequel elle évoque les représentations de la sexualité chez Genet. Elle a également dirigé le volume collectif « Genet et les arts », toujours aux presses du Réel, mais cette fois en 2013. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
D'être un enfant trouvé m'a valu une jeunesse et une enfance solitaire. D'être un voleur me faisait croire à la singularité du métier de voleur. J'étais, me disais-je, une exception monstrueuse. En effet, mon goût et mon activité de voleur étaient en relation avec mon homosexualité. Sortaient d'elle, qui déjà me gardait dans une solitude inhabituelle. Ma stupeur fut grande quand je m'aperçus à quel point le vol était répandu. J'étais plongé au sein de la banalité. Pour en sortir, je n'eus besoin que de me glorifier de mon destin de voleur et de le vouloir.
Extrait du journal du voleur, lu par Yvan Moran. Bonjour Agnès Van Nouvong.
Bonjour.
Alors comment est-ce que vous comprenez cette idée que pour Genet, il y a un lien entre le fait d'être homosexuel et le fait d'être un voleur ? Est-ce dans les deux cas une expérience du fait d'être en marge par exemple ?
Oui absolument, Genet c'est un écrivain, un poète, un dramaturge de l'écart, de la différence et puis de la subversion. Il a toujours fait, enfin, puis je pense que ça, il faut commencer par le début. Sa naissance, il était une pupille de la nation, donc un orphelin. L'a d'emblée mis de côté. Ensuite, sa trajectoire parle d'elle-même. C'est l'arsen, la prison, l'enfermement, l'écriture des romans, puis ensuite le retour dans le monde, l'écriture du théâtre. Et tous ces éléments, biographie, ces trajectoires de vie font, fabriquent ce que vous décrivez, cette identité de voyou d'écrivain tel qu'on le connaît.
Et puis ça crée une œuvre qui est dérangeante quand même, ou qui est pour le moins troublante.
Alors c'est ça, Genet c'est l'auteur de la, c'est un auteur éminemment subversif parce qu'il parle d'une chose qui choque, c'est-à-dire la sexualité, l'homosexualité, et il en parle de façon frontale, de façon très crue.
Il n'y a pas d'euphémisation chez Genet. Et en même temps, il y a une manière très poétique de montrer la sexualité. Donc on est en effet dans le frontal, mais on est aussi dans la sublimation.
Oui, sublimation des corps, sublimation de l'identité, et puis cette fascination pour l'image qu'on retrouve aussi bien dans son cinéma. Je pense à son film qui est un chef-d'œuvre, Un chant d'amour, qu'il a réalisé en 1950. Je pense à toute sa production théâtrale très importante. Je pense à ses essais esthétiques qui vont de Rembrandt à Giacometti.
Et dont on parlera plus particulièrement en deuxième partie de cette émission, Agnès Van Nouwang. Alors, il faut expliquer quand même que le désir chez Genet, la question du désir, la question aussi de l'identification sexuelle, elle est assez complexe. Vous dites que son œuvre esquisse les traits d'une esthétique polysexuée, où le genre sort de sa dimension ontologique et essentialiste. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu et peut-être éclaircir aussi cette phrase-là ?
Alors c'est une formulation un petit peu compliquée, inutilement compliquée, pour expliquer au fond que il fabrique une œuvre qui est aux frontières, qui est toujours à la lisière. Genet, il a toujours refusé de faire partie d'un camp qui serait le camp de la majorité. Il était du côté des opprimés, du côté des homosexuels, du côté des Noirs, des Black Panthers, du côté des Palestiniens. Et d'ailleurs, il me revient une citation, une phrase de lui, il disait aux Palestiniens, le jour où vous serez une nation, je partirai. Voilà. Et je pense que cette instabilité, enfin cette espèce de refus d'entrer dans les normes et d'entrer dans un collectif qui serait le collectif des dominants, c'est une caractéristique chez lui très très importante. Et ce qui est important, c'est dans son œuvre, c'est la question de l'instabilité, être d'un côté et pas de l'autre, et ne pas choisir, voilà, être entre les deux.
Alors pour ce qui concerne la question de la sexualité, ne pas choisir, c'est donc naviguer entre les genres.
Oui, naviguer entre les genres. Alors, ce qui est intéressant chez Genet, c'est la question de l'identification. Au fond, on se dit, en ouvrant par exemple Journal du voleur, Miracle de la rose, Notre-Dame des fleurs, donc tous ces romans écrits en prison, on est frappé, moi la première, lorsque j'ai travaillé sur Genet, par la dimension très masculine, très virile de son œuvre. Et puis, en relisant les textes, on aperçoit que les voyous, que les voleurs, que les assassins ne sont pas si virils que ça. Et c'est là où le genre intervient et où devient passionnant, parce qu'il ne cesse de déconstruire. Il déconstruit avant la lettre.
Enfin, ils ont une image quand même de la virilité. Il y a beaucoup de muscles, par exemple. Il y a beaucoup d'une espèce de violence aussi qui ressemble quand même à ce qui définit la virilité.
C'est ça. Alors, c'est cette espèce de nécessaire identification à la virilité qui aussitôt est défaite par une phrase. Alors, je vais juste citer un passage que je trouve très intéressant dans Notre-Dame des Fleurs. C'est la suivante. C'est « Divine endossa le corps d'un mâle soudain forte et musclée. Elle se voyait dure comme fer, elle sentait enfin ses muscles, comme lors de son essai viril, lui pousser et se durcir aux omoplates, aux bras. » Voilà, donc elle est présentée à la fois comme une femme et comme un homme dur. Hein. Et puis j'emploie à dessein ce terme de dur, qui chez Genet désigne l'hyper marlou. Et une autre phrase qui est de Genet, toujours dans ce texte magnifique Notre-Dame des Fleurs, et qui est une clé à mon sens, « Je vous parlerai de divine au gré de mon humeur, mêlant le masculin et le féminin. »
Donc les personnages de Genet naviguent en effet entre les genres, mais Genet ne nie pas la différence sexuelle. Pour lui, il y a vraiment des hommes et des femmes.
Je crois que ça va au-delà de ça. Je crois qu'il annule la différence sexuelle. Il dit d'emblée, bien sûr qu'il y a des femmes, bien sûr qu'il y a des hommes, mais il y a aussi l'affinité, la masculinité, qui sont des signes de la sexuation qui sont complètement réversibles, qui bougent sans cesse. Et c'est dans ça que mon étude, Genet relu à la lumière des études de genre, peut être perçue comme quelque chose d'un petit peu... Comment dirais-je comment dit-on si vous voulez, Genet, il est avant-gardiste, voilà. Mm-hmm. C'est pas qu'il a inventé les études de genre, c'est pas ça, mais il a pensé, il a conceptualisé sans le dire.
Il a ressenti, en fait, peut-être, cette fluidité que des gens comme Judith Butler vont ensuite problématiser, théoriser.
Absolument. Genet est profondément et éminemment queer avant la lettre.
J'ai tué pour les yeux bleus d'un bel indifférent qui jamais ne comprit mon amour contenu. Dans sa gondole noire, une amante inconnue, belle comme un navire, et morte en m'adorant. Toi, quand tu seras prêt, en armes pour le crime, masqué de cruauté, casqué de cheveux blonds.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors pour comprendre la question de la sexualité dans l'œuvre de Jean Genet, il faut peut-être revenir un tout petit peu sur sa biographie et redire quand même que ça a été un enfant sensible, délicat, qui a peut-être dû devenir dur parce que il lui a fallu cacher un certain nombre de gestes considérés peut-être comme trop féminins, que ce soit dans son enfance, mais peut-être pas seulement d'ailleurs dans son enfance et dans son adolescence, peut-être toujours finalement.
Genet, c'est un cas assez exceptionnel, c'est pas tout à fait le terme, mais il n'a jamais connu sa famille. Et ça, c'est un élément qui est important parce qu'il était profondément seul en définitive. Aucun regard pour le juger, une éducation qui est très sommaire, et il a dû se fabriquer seul. C'est un autodidacte.
Mais c'est aussi quelqu'un qui aimait, par exemple, se travestir. Oui. Il y a, dans le livre de Paul-Louis Astreau, Genet à 20 ans, une scène qu'il raconte au moment où, à Cadix, en 1934, un client d'un bar dans lequel Genet se produit en travesti, qui se prend les pieds dans sa robe de dentelle et qui, du coup, lui arrache la robe. Et Genet, donc, totalement humilié, il est très jeune aussi à ce moment-là, sort du bar sous les colibés, nous explique Paul-Louis Astreau. Et là, il aurait couru jusqu'à la mer et il aurait jeté dans la mer ses vêtements de femme. Et là, on peut peut-être y voir justement un sentiment d'humiliation qu'on va retrouver transposé dans son œuvre, Agnès Van Nouvenc. Et puis aussi, voilà, ce féminin qui existe en lui, mais qu'il ne peut pas réellement se permettre de montrer, si ce n'est en se mettant lui-même en marge.
C'est une scène qu'il reprend de façon spectaculaire dans un roman qui s'appelle « Journal du voleur ». Il met en scène un personnage qui s'appelle Jean, qui va à la rencontre d'un groupe de travestis qu'il appelle les Carolines. Et ces Carolines vont rendre un hommage au feu vespasienne dans les rues espagnoles, c'est-à-dire ces toilettes publiques autour desquelles elles se réunissaient, étaient réunies, pardon. Et Genet explique un peu plus loin. Sous la jupe, je garde mon pantalon. Mmh. Et effectivement, il est du côté de ces filles de la honte. C'est une expression qu'il emploie, filles de la honte, parce que il veut à tout prix faire partie, enfin être une figure, parce qu'il est à la base une figure de l'écart. Donc être du côté des opprimés et ne jamais franchir un paravent qui serait l'autre dominant.
Comment ça se traduit dans les fictions? On pense évidemment à Divine, par exemple, au personnage de Divine.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est la façon dont l'écriture désarticule le genre, parce qu'au fond, c'est une écriture qui est épicène, mais une écriture qui déstabilise les frontières du genre. Le français, on le sait, c'est une langue très genrée, contrairement à l'anglais. Et Genet parvient très bien à briser, à casser. Et par exemple, Divine, elle parle d'elle à la fois au féminin et au masculin. Si on laisse de côté un peu les romans, et qu'on va du côté du théâtre, je pense à une pièce qui est très importante, qui est assez peu lue, qui est assez peu mise en scène, c'est Haute Surveillance, qu'il écrit.
Considéré comme étant pas sa meilleure, quand même.
Comment?
Qui n'est pas considéré comme étant parmi ses meilleures
non,
pièces.
Non, c'est vrai, mais c'est une pièce que moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu le pendant des Bonnes. Un huis clos masculin entre trois hommes.
En prison.
En prison. Alors il se joue ici une sorte de théorème puisqu'ils sont en train de se désirer et puis de vouloir se tuer. Donc une pulsion de meurtre et puis de désir très fort. Et il y a ce personnage, yeux verts, que tout le monde voudrait être et que tout le monde voudrait tuer et puis, mmh. et puis prendre sa place. Les yeux verts, il a commis, c'est la figure du mal, quelque part, qui est terriblement beau. Il a commis ce crime, explique Genet, il a tué un enfant. Et lorsqu'il décrit son crime, alors je vous lis le passage parce que je l'ai trouvé aussi très intéressant par rapport à cette question du genre, il dit, pour sortir le corps, il parle de lui-même, hein, ils sont tous en prison, hein, pour sortir le corps, impossible, je tenais trop de place, mes mamelles étaient devenues énormes, visibles, j'étais mou, je n'osais pas sortir, j'avais changé de sexe, la rue, mes pieds. Voilà. Donc ici, on a vraiment toute la poésie, cette espèce de phrase longue, rythmée, qui est brisée par un syntagme plus court, la rue, mes pieds, point. Voilà. Là, on a toute la poésie, tout le style de Genet, qui nous montre que le genre aussi est quelque chose de très fluctuant, de très polymorphe.
Alors, c'est tellement fluctuant que les personnages, évidemment, de Genet se posent eux-mêmes la question. Écoutez, par exemple, ce qui se passe dans Querelle de Brest.
Dis donc, qu'est-ce qui te plaît ? Pourquoi que t'as envie de la patronne ? Explique-toi. Querelle éclata de rire en disant, avec un mouvement désinvolte de la tête et de façon que sa voix frappa n'importe quoi plutôt que le visage de non.
Parce qu'elle me plaît.
Dès cet instant, tous les détails du visage de Querelle enchantèrent Norbert. Ce n'était pas la première fois qu'un gars bien baraqué demandait la patronne afin de coucher avec le taulier. Une chose l'intriguait, savoir qui enfilerait l'autre. Ça va ? D'une poche de son veston, il sortit un dé. Tu fais, je fais.
Vas-y.
Norbert s'accroupit et joua sur le sol. Il sortit un 5. Querelle prit le dé. Il était sûr de son habileté. L'œil très exercé de Nono remarqua que Querelle allait tricher. Marie. Avant que d'avoir pu intervenir, le chiffre 2 était prononcé, presque victorieusement crié par le matelot. Ou... D'abord, il avait pensé que Querelle voulait s'envoyer la maîtresse de son frère. Cette fraude prouvait que non. Et le gars n'avait pas non plus l'air d'un pédé. Inquiet pourtant de la sollicitude que cette proie apportait à se perdre, il haussa légèrement une épaule en se relevant et ricana. Querelle se releva aussi. Il regarda autour de lui, amusé, souriant, encore qu'il éprouva la sensation intérieure de marcher au supplice. Il marchait avec dans l'âme le désespoir, mais aussi la certitude intime, inexprimée, que cette exécution était nécessaire à sa vie. En quoi serait-il transformé ? En enculé ? Il le pensa avec terreur. En quoi est-ce un enculé ? Quel monstre nouveau devient-on et quel sentiment de cette monstruosité ? On est cela quand on se livre à la police.
On va pas s'embrasser,
pensa-t-il. Et ceci encore...
Moi, je tends mon cul, c'est tout.
Quel corps nouveau serait le sien ?
Extrait de Querelle de Brest, lu par Guillaume Gallienne et Nicolas Bedos. Qu'est-ce que vous en retenez, Agnès Van Nouvent ?
Ce qui me fera beaucoup dans Querelle de Brest, dans le passage qu'on a écouté, c'est cette espèce de mise en scène, de dialectique constante entre l'actif et le passif. Voilà, ils sont voilà en train de s'enculer, de pas s'enculer, ils sont totalement réversibles, comme l'identité, comme les identités, comme le genre. Et c'est un jeu de rôle que chacun interprète. On s'en nettoie à tour mou, dur. Et je n'ai c'est ça, cette espèce d'impossible identification, c'est cette impossible fixité de l'identité. Hein.
Et il y a aussi la honte quand même de la position passive, parce que ils sont obligés de jouer au dé pour faire semblant de pas avoir à décider qui aurait quelle position dans l'amour. Et finalement, on entend que Rel exulte parce qu'il a perdu entre guillemets, c'est-à-dire que c'est lui qui aura la position du passif.
Il est absolument ravi, que Rel, absolument.
Mais alors ça pose une question quand même, parce que vous expliquez aussi dans votre essai que la position du passif peut être aussi assimilée à la position du dominé dans la société, et cela depuis l'Antiquité. Et en même temps, Genet nous explique bien que son personnage de Querelle, lui, la recherche, cette position de dominé d'une certaine façon, entre guillemets.
Oui, parce que finalement, quelque part, c'est confortable d'être dominé. On attend, le désir est là, et puis il y a tout un fantasme autour de ça. Genet, il est très influencé également par l'Antiquité, ça c'est pour le théâtre, là, le théâtre élisabéthain, c'est autre chose, on en parlera peut-être tout à l'heure.
On peut en dire un mot si vous voulez.
Oui, on s'éloigne un peu de la sexualité, mais pour parler un peu plus du genre, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne sont pas très très très, très loin. Son théâtre met en scène également cette question du genre et de la sexualité. Et c'est pas un hasard parce qu'il est totalement nourri des références du théâtre élisabéthain, du théâtre antique, mais aussi du théâtre japonais, le théâtre Noé Kabuki, qui également joue de cette question de la frontière ténue entre le genre. Pour revenir à votre question, cette question de l'actif, passif et du dominé-dominant, elle est impossible à annuler parce que il est toujours en train d'annuler la dialectique. La dialectique chez Genet est absolument intenable.
Mmh. Donc il y a un travail de critique aussi des normes qui est très visible là, de toutes les normes et dans tous les domaines, mais ça s'incarne beaucoup dans la question sexuelle.
Oui, alors je parlais tout à l'heure de sa naissance, de sa trajectoire de vie. Et, c'est important de rappeler aussi cet élément parce que évidemment, Genet ne serait pas l'écrivain qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas vécu cette vie-là, c'est évident. Et cette mise à l'écart, elle détermine également tout son intérêt autour du mal. Alors j'emploie ce terme à dessein. Bataille l'a très bien commenté dans La littérature et le mal. La question de la mort également est très présente parce qu'autour de ce couple Eros et Thanatos, il y a le désir de tuer, le désir de vivre également. Et la blessure amoureuse. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver également. Cette question de la perforation dans Querelle de Brest que vous avez, qu'on a entendu tout à l'heure, elle est essentielle. Le trou, il est constant. Il est présent dans son film Un chant d'amour. Les prisonniers échangent de la fumée entre les parois de la prison. Il est présent dans Le balcon. Je pense à cette pièce qui parle du pouvoir également, parce qu'évidemment, de quoi est-il question tout ça ? Il est question de la domination. Il est question de c'est un théâtre, c'est une œuvre qui est éminemment politique.
Et les paravents est une œuvre évidemment très politique, dans laquelle il y a aussi un bordel, et qui parle de la question coloniale. Et il y a toute une partie, tout un développement dans votre essai, Agnès Van Nouvang, sur le rapport de Genet, rapport érotique de Genet avec la figure de l'homme arabe. Je vous propose d'écouter justement un texte, un extrait de 4 heures à Chatila, et puis après vous nous parlerez de ça.
Tout, tous, sous les arbres, étaient frémissants, rieurs, émerveillés par une vie si nouvelle pour tous, aussi pour moi. Et dans ces frémissements, quelque chose d'étrangement fixe, aux aguets réservés, protégé comme quelqu'un qui épie sans rien dire. Tous étaient à tous. Chacun était en lui-même, non sous, mais seul. Et peut-être non. En somme, souriant et hagard. Les jeunes soldats entretenaient leurs armes presque amoureusement, avec une graisse si transparente qu'il m'était difficile de ne pas songer à un enduit de vaseline. Tout donnait à penser qu'ils étaient amoureux du fusil.
Une lecture par Richard Leduc, Agnès Van Nouvang. Que nous dit pour vous la fascination et l'attirance physique de Genet pour la figure de l'homme arabe en particulier ?
en écoutant La Langue est magnifique. On ne se lasse pas d'écouter Genet, de le lire. Alors Genet, il est très intéressant aussi de le lire à la lumière des études postcoloniales. Les études, ce qu'on appelle les études intersectionnelles, qui met en perspective comme ça la question d'identité, du genre, de la sexualité et puis de la multiculturalité. Genet, c'est l'écrivain de l'ambiguïté. Mais pas que sexuelle, l'ambiguïté tout court. Et ce qui est intéressant avec cet exemple que vous évoquez, c'est cette espèce d'affirmation totale. Oui, j'aime les Arabes. Oui, j'étais légionnaire. Oui, je suis partie à Damas pour être légionnaire, mais aussi pour rencontrer des hommes. Et oui, je défends les Palestiniens. Et en même temps, je ne suis pas comme eux. Voilà, c'est cette ambiguïté constante qu'on retrouve dans son œuvre.
Ça veut dire quoi, je ne suis pas comme eux?
Je suis pas comme eux, je fais pas partie de cette minorité, ni de cette majorité. Je défends l'opprimé, mais comme il le disait, le jour où vous serez une nation, je ne serai plus de votre côté.
Donc une fois que vous ne serez plus opprimé, en gros, ce sera plus tellement intéressant pour moi.
Oui, alors c'est une posture, et puis mais je pense qu'il faut ce qu'il faut retenir surtout c'est la dimension poétique évidemment, mais la dimension politique parce qu'au fond bon tout ça on parle du désir, mais la dernière partie de Genet, c'est-à-dire les années 60, 80, il est mort en 86, est marquée par une écriture, enfin son intérêt est politique, il s'intéresse aux Black Panthers, aux Palestiniens, il écrit beaucoup sur cette question et il les défend. Voilà, il les défend. C'est un intérêt qui est très personnel, qui est très érotique, qui est très fantasmatique et qui est politique, parce que tout est politique au fond.
Alors vous avez parlé des post-colonial studies, des études post-coloniales, et évidemment aussi de la théorie queer. Vous avez souligné à quel point on avait l'impression d'une espèce de préscience de Genet sur tous les développements intellectuels de l'université qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connu d'abord par la French Theory, puis par l'université américaine. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous expliquez au fond qu'il soit si actuel? Est-ce que c'est parce que des gens comme Foucault, comme Derrida l'ont lu aussi? Est-ce que vous pouvez, ébaucher une explication en tous les cas?
Oui, alors il faut un petit peu contextualiser cette question pour la comprendre. Vous parlez de Foucault, vous parlez de Derrida, de Deleuze, de Barthes, et ce sont effectivement des penseurs qui ont fabriqué la French Theory, la pensée française, enfin la théorie française. C'est comme ça que les universités américaines nomment ce courant théorique. Il se passait tellement de choses durant ces années-là, c'était vraiment un laboratoire d'idées qui est très très importante, une histoire des idées très puissante. Moi, j'aurais adoré vivre dans les années 70 parce qu'il y avait des choses tout à fait fortes qui se disaient, qui se fabriquaient. Et Genet était à la croisée de tout ça. Il était
son œuvre. Mais est-ce qu'il était théoricien lui-même? Parce que alors, il aurait voulu être théoricien. Il se mettait peut-être même en compétition avec un certain nombre de penseurs comme Sartre, par exemple.
Oui. Bon, alors, je crois pas. Je crois absolument pas qu'il... Enfin, c'est mon avis, hein. Je pense qu'il n'était pas théoricien du tout. Il a écrit des essais, effectivement, mais il avait surtout cette capacité formidable de fictionnaliser des questions théoriques complexes. Et c'est en ça qu'il est passionnant. Et qu'on peut le relire à la lumière, vraiment, des études de genre. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est totalement irrécupérable. On ne peut pas, il a toujours refusé qu'on lui assigne une identité, et les études de genre, moi, cette étude que j'ai écrite, ne permet nullement de dire « Genet est queer », parce qu'on peut dire aussi qu'il n'est absolument pas queer.
Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas queer?
Alors je préférais que vous me demandiez pourquoi il est queer.
C'était moins original.
Non, je pense qu'il a, c'est un précurseur vraiment de ces questions de déconstruction, parce qu'au fond, ce qui l'intéressait, lui, c'était cette grande question du devenir sujet. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que c'est que la sexualité? Et et comment je vais mettre en fiction tout ça.
Mais ce qui est assez fascinant, c'est que, et peut-être aussi parce que précisément il a écrit sans filtre ses romans, il couche sur le papier, de manière poétique évidemment, quelque chose qu'il ressent très profondément, un peu comme il ferait une psychanalyse d'une certaine façon, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de théories peuvent se greffer sur cette œuvre, parce que c'est un matériau qui est un matériau brut. Il a lu Freud d'ailleurs, Genet, c'est quelqu'un qui connaissait l'œuvre de Freud.
Oui, absolument. Je suis pas très expert. J'ai consacré un tout petit chapitre dans mon livre. Je suis pas très experte sur la question, mais.
En tout cas, ça vous semble une possibilité
oui,
que de dire que son œuvre passe directement du filtre de l'inconscient, enfin n'est pas filtrée justement et passe directement depuis l'inconscient.
Complètement. D'ailleurs, tout ce qui met en scène toute cette question du mal dont vous allez parler avec Evangèle Banca, elle est nourrie par ça, cette pulsion du meurtre. La question du crime et de l'assassin, elle est essentielle. Journal du voleur, le début, enfin le livre est dédié à Wedman, ce jeune assassin, qui était auréolé, d'un érotisme qu'on retrouve avec la figure de l'arabe.
Ouais. Allez Agnès Van Nouvang, on va continuer à parler de Genet avec vous en deuxième partie de cette émission, sous l'angle cette fois de son rapport avec les arts plastiques. Ce sera juste après la chronique de Michel Crépu.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel.
Bonjour.
Un mot peut-être sur Genet, avant toute
oui.
chose.
Un mot, c'est difficile, mais je le
choisissez
vois comme
le bien.
Un solitaire du malentendu.
Ah, c'est pas mal,
pas
ça.
Pas mal, hein.
Trois mots.
Toujours pour quand on est contre, toujours contre quand on est pour, ce qui est un peu aussi une impasse, parce qu'on tourne vite en rond dans ce système, donc c'est plus que ça, c'est plus tordu que ça. Mais très foncièrement, je le vois vraiment comme une sorte de sauvage solitaire qui est dans un malentendu avec le groupe humain. Quel qu'il soit, quelles que soient ses étiquettes, ses identités. Et en définitive, je connais rien à la science du genre, hein, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais au fond, la discussion sur lui est une discussion sur l'identité, en définitive. Et dans quelle mesure une identité peut être quelque chose de d'ouvert, de libre, qui ne tourne pas à l'idéologie. Et on a le sentiment vraiment dans les mésaventures autobiographiques de Genet qu'il n'arrête pas de tomber, au contraire, sur de l'idéologie, du malentendu idéologique, et que naturellement ça doit le rendre très malheureux.
Et sa prose, est-ce que vous l'aimez, Michel Crépu? Est-ce que c'est quelque chose, parce que c'est vrai qu'elle est quand même très particulière, l'écriture de Jean Genet?
Je suis pas fou, mais quand j'aime vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Le mot est naturellement totalement galvaudé, donc, mais bon, il y a une sorte de baroque floral, j'allais dire, chez Genet, qui me plaît bien, parce que je peux m'y reconnaître. Et puis, d'autres moments qui me parlent moins, que je trouve un peu lourd, que je trouve un peu chargé. Mais bon, ce sont des questions de goût personnel.
Alors passons du baroque floral à la musique moderne de Debussy, puisque oui. Dans la NRF de janvier, il y a une contribution sur Debussy à la plage, un livre du musicologue Rémi Campos.
Oui, c'est très intéressant finalement et très d'une façon un peu inattendue, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de Genet là. Mais au fond, c'est pas sans écho avec Genet. Alors, le personnage en question n'a rien à voir avec Genet, c'est Debussy, donc on est très loin.
Assez loin, oui.
On est assez loin. Mais après tout, le prélude à l'après-midi d'un faune.
Exactement. Mais
c'est pas
Debussy, là, en l'occurrence.
Non, c'est pas Debussy.
C'est plutôt les Baléares.
Mais je trouve que ce livre, qui est en fait le résultat très, très réussi d'un ensemble de documents, de pièces concernant les séjours de Debussy à Houlgate, à la plage, Debussy à la plage, a quelque chose de paradoxalement d'assez aventureux et d'assez d'assez étonnant.
Donc c'est un Debussy à la plage, c'est même un Debussy un peu au creux de la vague, parce qu'il ne va pas très bien à ce moment-là, Debussy.
Oui, alors il y a effectivement ce côté-là, mais l'univers, on peut aussi parler de Proust, hein, facilement. Dès qu'on est à la plage en Normandie, le grand hôtel de Cabourg n'est pas loin, et donc Debussy n'est pas loin non plus, sous un couvert, sous des apparences paisibles, douces et reposées, en fait, on est devant quelque chose d'assez sauvage aussi, d'assez étrange.
Donc voilà, pour ce Debussy à la plage, une autre contribution concerne, c'est celle de Pierre-François Mettant, la personnalité de Gérard Bauer, qui est un petit peu oublié.
Il a exhumé, grâce à un ensemble de pièces, notamment de journaux intimes, la figure de ce Gérard Bauer, qu'on lisait encore un peu dans le Figaro à la fin des années 50. C'était une sorte de il passait un peu pour un chroniqueur mondain, alors qu'il est beaucoup plus que ça. Non pas mieux, parce que chroniqueur mondain, ça peut être merveilleux. Donc il ne s'agit pas de le dévaloriser, mais plutôt d'élargir un peu le cercle des passions et des curiosités de cet homme, dont on peut espérer, peut-être que grâce au travail de Mettant, il pourra retrouver une existence éditoriale digne de ce nom.
Voilà, puis il y a aussi des extraits de son journal durant les années de guerre, où il était persécuté, oui, lui et les siens, parce qu'il était juif. Merci beaucoup, Michel Crépu.
C'est moi, cher Mathieu.
Et à très bientôt. La Compagnie des auteurs, deuxième partie de notre émission consacrée à Jean Genet. Nous sommes avec Agnès Van Nouvang, et après avoir parlé de l'écrivain sous l'angle du genre, nous évoquons à présent son rapport avec les arts plastiques.
Je vais parler de Giacometti, puisque
Roger Blin, parce que j'ai encore dans les fesses la paille de la chaise de cuisine sur laquelle il m'a fait asseoir pendant 40 et quelques jours pour faire mon portrait. Il ne me permettait ni de bouger, ni de fumer, un peu de tourner la tête. Mais alors, une conversation de sa part, tellement belle.
C'est vrai qu'il existe un portrait d'un dessin de Jean Genet par Giacometti qu'on peut voir au Musée d'Art Moderne de Paris, au Centre Pompidou. Peut-être que c'est à cette séance de pause-là que Genet faisait référence dans cette archive. Le savez-vous, Agnès Van Nouvang?
Oui, alors c'est une rencontre qui est très très importante pour lui. Sartre, dont on parlait, présente Giacometti à Genet. On est en 1954. Et Genet pose entre 54 et 57, il y a plusieurs portraits. Et comme Giacometti pensait souvent qu'il ratait, on a comme ça entre 7 et 9 tableaux de Genet par Giacometti.
Et donc, il faut quand même dire que Genet n'est pas seulement le grand écrivain qu'on connaît, publié dans la Pléiade, le grand dramaturge entré au répertoire de la Comédie française. Il a aussi écrit plusieurs textes de critique d'art qu'on a peut-être un peu plus oubliés quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a deux grands textes. L'un est consacré à Rembrandt, qu'il admirait immensément, et l'autre est consacré à Giacometti, qui s'appelle L'atelier d'Alberto Giacometti, et c'est, à mon sens, l'un des plus beaux textes de littérature sur l'art moderne.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que, au fond, enfin, Funès avait cette phrase qu'il écrit dans une lettre à l'artiste Léonore Fini. Il dit la chose suivante, il dit: je ne puis dire la vérité qu'en art. Et cette phrase, elle me paraît importante parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il raconte? Il veut dire que, ce qui l'intéresse chez Rembrandt et Giacometti, ce qui le touche, c'est deux choses. C'est la solitude immense et c'est la blessure. La blessure du sujet qui va lui permettre, qui va l'inspirer profondément pour créer. Et c'est un texte éminemment personnel, au fond. C'est un texte très... Il parle de lui, il ne cesse de parler de lui. Quand il parle des tableaux de Rembrandt ou de ces sculptures immenses qui sont seules... C'est un geste et puis une démarche qui ne fait qu'évoquer sa vie, sa trajectoire, son destin.
On va revenir là-dessus. Il y a aussi un troisième texte, alors c'est pas des arts plastiques, mais c'est un texte de critique d'art. C'est le Funambule, où là, il parle de son amant, Abdallah, qui était funambule précisément. Et il en parle comme il parle d'un artiste, puisque c'est un artiste du cirque.
C'est un très beau texte également qui est régulièrement joué. Je pense à la mise au spectacle de Préjocage il y a quelques années. C'est une sorte de texte. C'est pas qu'on peut le comparer à ces textes liminaires, comment jouer le balcon, comment jouer le paravent, comment jouer les bonnes, etc. Mais c'est une réflexion aussi théorico-littéraire sur la danse. Sur l'équilibre et puis sur la création, pour pouvoir en parler. Et c'est un texte, et c'est quelqu'un qui était important pour lui, cet homme qui l'a aimé, cet amant
Abdallah, qui est mort aussi,
qui est mort absolument. Donc c'est aussi notre blessure dans son histoire, un trou, une béance.
Oui. Alors il y a le cinéma. Vous avez cité tout à l'heure le film que Jeunet a réalisé lui-même, dont il était scénariste. Et puis il y a eu des adaptations aussi, Pompe funèbre par Pierre Grimblat dans son film Arrestation d'un tireur des toits, mais aussi le fameux Querelle de Brest de Fassbinder. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le rapport de Jeunet au cinéma? Est-ce qu'il les aimait d'ailleurs, ces adaptations-là? C'est pas sûr.
Alors je ne sais pas. Mais en revanche, ce que j'explique dans mon essai, c'est que le cinéma, c'est une, évidemment, on pourrait se dire, c'est une autre forme d'écriture pour un écrivain. Mais chez Jeunet, c'est plus compliqué que ça. Il a eu l'occasion de réaliser plusieurs. Enfin, il aurait pu réaliser plusieurs films. Il n'a jamais. Il a toujours échoué. Dans ça, et le seul film qu'on connaît, donc c'est donc Un chant d'amour. Le cinéma, ce film-là, c'est un film muet, et c'est un élément important parce que ça dit la chose suivante, ça dit que le cinéma pour lui, c'est ce qui s'inscrit au-delà des mots, au-delà du dialogue, au-delà du son, parce qu'il n'y a pas de musique, rien. Et c'est une autre forme de langage qu'il recherche, une autre forme de narration. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si on revoit le film, c'est l'enchaînement des plans séquences qui sont très fragmentés à l'image des deux cellules dans lesquelles sont enfermés les deux prisonniers. Donc c'est une forme de narration puissante, sans mots. Indicible.
Mais vous voyez, vous nous dites plutôt que c'est la vue, la vision qui est primordiale chez Jeunet. Et c'est vrai qu'on aurait aimé beaucoup voir davantage de films de lui, tellement sa prose à lui est visuelle. Et il campe un peu ses personnages comme s'il s'agissait de sculptures, d'une certaine manière, comme Giacometti sculpte avec le bronze, Jeunet, lui, sculpte avec les mots, mais on retrouve quelque chose de similaire.
Complètement. Alors, si on contextualise encore une fois, on s'aperçoit que Le Balcon, qui est une pièce très importante, a été publié en 56 et L'Atelier d'Alberto Giacometti en 58. C'est une période cruciale parce qu'on s'aperçoit que Jeunet, au fond, pense de façon profonde cette question de la figuration. Son intérêt pour ces sculptures solitaires qui marchent, ce que j'appelle dans mon livre le hiératisme de l'image, c'est-à-dire la question de l'immobilité, elle est totalement opérante dans son théâtre. Dans Le Balcon, comme dans Les Paravents, il imagine ses personnages sur des cothurnes de 50 cm, élevés comme des statues immobiles. Et c'est intéressant de voir également que ces figures, elles représentent des fonctions symboliques qu'on retrouve dans notre société, c'est-à-dire le juge, l'évêque, le voleur, etc. etc. Donc, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que sa réflexion autour d'image, elle permet de faire une critique de la société.
Alors, par exemple, dans Notre-Dame des Fleurs, il fait poser le personnage d'Alberto, si l'on peut dire, je le cite, « Alberto était immobile sur le bord du chemin, comme s'il attendait quelqu'un, ses deux belles jambes écartées dans l'attitude des colosses de Rhodes, ou peut-être du colosse de Rhodes. » Ça, c'est de manière très symptomatique, une manière de sculpter un personnage.
Oui, oui, absolument. Là, on voit la concomitance entre lire et puis voir, et puis surtout cette question de la sensation qui est au cœur de son œuvre. On a l'impression de voir Alberto, de le sentir. C'est une écriture qui est extrêmement sensuelle, qui est au cœur de la chair, au cœur du corps.
Alors pourquoi, selon vous, avez-vous le sentiment que c'est la solitude que Genet voit en particulier, alors on parlera de Rembrandt après, mais chez Giacometti et dans les œuvres de Giacometti? Parce que d'ordinaire, quand on fait une critique d'un artiste, c'est pas sur ce genre de mots qu'on va s'arrêter. Et là, lui, il écrit un texte qui parle de la solitude. Alors pourquoi, selon vous?
Je pense que c'est ontologique. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup dans l'atelier d'Alberto Giacometti, c'est la suivante, c'est de Genet. Ces sculptures immenses, immuables, preuve fascinante que j'existe, que nous existons dans toute la grandeur de notre solitude. C'est ça qui est important en fait, c'est cette idée qui est à rapprocher de la mort, au fond. Parce que, pourquoi est-ce qu'il aime tant Giacometti? Parce que c'est le peintre de la métaphysique. C'est cette obsession pour ces morts mal enterrés, pour ces fantômes qui n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître.
Pour ces corps décharnés aussi?
Exactement, ces corps décharnés, ces corps désorientés, ces corps qui n'en finissent pas de mourir quelque part.
Je propose d'écouter un extrait de l'atelier de Alberto Giacometti.
Il y a 4 ans environ, j'étais dans le train. En face de moi, dans le compartiment, un épouvantable petit vieux était assis. Sale et manifestement méchant. Certaines de ses réflexions me le prouvèrent. Refusant de poursuivre avec lui une conversation sans bonheur, je voulus lire, mais malgré moi, je regardais ce petit vieux. Il était très laid. Son regard croisa, comme on dit, le mien, et ce fut bref ou appuyé, je ne sais plus, mais je connus soudain le douloureux, oui, douloureux sentiment que n'importe quel homme en valait exactement. Qu'on m'excuse, mais c'est sur exactement que je veux mettre l'accent. N'importe quel autre. N'importe qui, me dis-je, peut être aimé par-delà sa laideur, sa sottise, sa méchanceté. C'est un regard, appuyé ou rapide, qui s'était pris dans le mien et qui m'en rendait compte.
La compagnie des auteurs. Alors dans cet extrait de l'atelier d'Alberto Giacometti, il n'est pas question de Giacometti et ça me semble justement assez symptomatique de la manière dont Genet parle de cet artiste en prenant l'exemple de cette révélation qu'il a eue un jour dans un wagon, que tous les hommes se valaient. Et ça, il le raconte pour expliquer ce qu'il voit justement dans les sculptures de Giacometti.
Oui, moi, le grand point commun, à mon sens, dans l'écriture de ses essais, donc sur Rembrandt et Giacometti, c'est cette question qu'on pressent également dans cet extrait qu'on a entendu, cette question de l'universalité, au fond, nous sommes des hommes et des femmes, et c'est la question de la vulnérabilité, de la fragilité. Quand il voit ces figures, il sent que ça tremble. C'est ce tremblement qui nous ramène à une humanité. Nous ne sommes que nous sommes mortels, au fond, c'est ça.
Et au passage, on reconnaîtrait presque du Sartre, un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui.
Complètement. Tout à l'heure, vous m'avez demandé s'il aurait pu être théoricien. Moi, je dirais que non, mais simplement, il est très frappant de voir qu'il a une approche phénoménologique et puis une approche existentialiste. Et c'est très important aussi parce que, bon, à l'époque, il y a cette espèce d'amitié entre Sartre, Giacometti, Genet, Beauvoir, etc. Et puis Giacometti aussi, on le rapprochait de l'existentialisme, cette idée que nos vies, en fait, que la vie a aussi un impact sur la création. Et ça, c'est très, 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 très frappant chez lui, très essentiel.
Dans les sculptures de Giacometti, les plus célèbres en tous les cas, hein, parce qu'il y en a beaucoup des sculptures qu'on n'a pas forcément en tête comme ça, mais ces grandes sculptures effilées, il y a l'idée d'être à l'os, enfin, qu'il n'y a plus que les os. Et il y a ça aussi chez Genet. Et par exemple, il partageait cette absence de besoin de confort. Giacometti, comme Genet, vivaient tous les deux très modestement. Il y a ça aussi, quand même, qu'on peut retrouver dans ces accointances entre l'un et l'autre.
C'est vrai, c'est une vie frugale. Genet n'a jamais eu de maison. Ça, c'est quelque chose de frappant. Il est mort seul, dans une chambre d'hôtel, à Paris, dans le 13e arrondissement. Il vivait à l'hôtel, avec ses amants, seul. Il était tout sauf matérialiste. Giacometti, lui, de son côté, si on a l'occasion d'aller visiter cette très belle maison de Giacometti dans le 14e arrondissement, on voit également que c'est une vie qui est très simple. Un lit, un atelier, enfin reconstitué évidemment. Et je pense que les deux hommes allaient à l'essentiel, c'est-à-dire peindre, sculpter et écrire.
Alors, peindre, justement, est-ce que le rapport à Rembrandt est du même ordre que le rapport à Giacometti?
Alors, le rapport à Rembrandt, oui, je pense qu'il y a cette question, cette grande question de la vulnérabilité, vraiment, j'insiste sur ce point.
Mais on voit moins la vulnérabilité quand même chez Rembrandt, si.
Alors, ça dépend, si on pense au portrait de vieillard, on voit, Genet parle dans son essai d'infernale transparence. Il parle d'infernale transparence de la blessure. Il parle de la béance. Et il dit qu'il voit au fond la mort. Il voit la souffrance. Et ce qui l'interpelle, et ce qui nous interpelle en tant que lecteur, c'est l'émotion. Voilà, il cherche l'émotion face à une œuvre d'art.
Alors là, vous pensez peut-être en particulier à ce tableau qui s'appelle « Le philosophe en méditation », où on voit en effet un philosophe perdu dans ses pensées, solitaire, éloigné du monde. Et au premier plan, il y a quelqu'un qui alimente le feu et qui lui semble être dans la vie, alors que le philosophe, il est perdu au fond à gauche du tableau. Et puis au milieu, il y a un grand escalier en colimaçon qui semble presque le sujet de la peinture. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, en tout cas selon Jean Genet, de la condition humaine? Agnès Van Ouvang.
Genet, il pourrait être la personne qui attise le feu.
Il est dans la vie, lui, quand même. Ça n'est pas le méditatif, le philosophe au fond du tableau.
Alors, ça peut être les deux. Je pense qu'il est réversible. Ça dit la solitude également. Ça dit le retrait du monde lorsqu'on crée, lorsqu'on regarde ce monde. Dans son texte sur Rembrandt, il y a cette très belle phrase qui est la suivante, qui parle de l'émotion. Il dit « Il y a mon émotion devant les tableaux de Rembrandt. Qu'est-ce que donc ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que ces peintures dont j'ai tant de mal à me désembourber? Ce qui me bouleverse, dit-il, c'est la bonté forte du sujet. Hein, c'est cette espèce d'humanité, d'extrême humanité. C'est la craquelure du sujet. Ces personnes qui sont sur le point de se briser. Et c'est en ça que qu'on comprend mieux sa passion, son accointance pour à la fois Rembrandt et Giacometti. Giacometti dont il disait qu'il était le seul artiste qu'il admirait.
Donc la bonté, c'est ça au fond qui touche profondément Genet, et peut-être qu'il se demande comment faire pour avoir une vie qui soit une vie de bonté dans un monde où on ne nous laisse pas, peut-être, je ne sais pas qui serait ce « on », avoir une vie bonne et faire soi-même le bien autour de soi.
Alors Genet figure de la bienveillance, je suis pas sûre.
Si vous parlez de bonté quand même.
Oui, c'est lui qui dit ça. Il parle de la bonté des portraits, la bonté forte des personnages, des figures de Rembrandt. Et il parle également d'infernale transparence de la blessure qui interroge également, je reviens à la dimension biographique, qui interroge ses origines.
Donc c'est lui-même qu'il voit dans les peintures de Rembrandt, dans les sculptures de Giacometti.
Je pense que c'est ça. Sa vulnérabilité cachée et dite.
Vous avez choisi de mêler dans un même essai, tiré de votre thèse, à la fois la question du genre et la question de l'art. Pour quelles raisons est-ce que ça se rejoint?
Moi, ce qui m'intéressait, avant de faire ma thèse sur Jean Genet, j'ai travaillé sur Hervé Guibert. autour de la question de l'image, autour de la question de l'image androgyne, et je me suis toujours, bon, cette fascination pour l'image qui est très proche, enfin qui a à voir avec la littérature, pardon, l'écriture, et j'ai essayé de comprendre comment il mettait en place, il mettait en scène ce dispositif de voir, imaginer, conceptualiser, et c'est la raison pour laquelle je suis tombée entre guillemets dans l'œuvre de Genet, et c'est d'ailleurs pour quelqu'un qui peut étudier et qui peut écrire sur Genet, quelque chose de très spéculaire, parce qu'il ne cesse, lui, de penser ce qu'est le théâtre, de penser ce que c'est que le roman. Et nous-mêmes, en écrivant sur lui, on n'en sort pas. Genet, on n'en sort jamais.
Merci beaucoup, Agnès Van Nouvang. Je rappelle le titre de vos essais à partir desquels nous avons bâti cette émission. Genet et les arts, on vient d'en parler aux Presses du Réel en 2016. Et puis le collectif Genet les revers du genre aux Presses du Réel 2010. Enfin, c'est le contraire. Le collectif, c'est Genet et les arts. Vous êtes également autrice de romans publiés au Mercure de France, Après l'amour, Gabriel et Dans la jungle. Le dernier, c'était en 2016. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Élise Leu, Laurence Millet, Laurence Genepin et Garance Mazelier. Demain, suite et fin de notre série Genet, ce sera avec Yvan Jablonka. Il nous parlera de la fascination de Genet pour une esthétique qui serait une esthétique nazie. C'est en tout cas la question qu'on posera. Mais tout de suite, c'est le moment de la poésie et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé.
Bonjour Mathieu, bonjour la compagnie. Stéphane Bouquet. Un peuple, c'est le titre défendu cette semaine. Vous voulez dire qu'il est plus particulièrement dans l'actualité ? Non, juste poétiquement. On est poétiquement dans l'actu. Un peuple. Bouquet circule dans les allées d'un cimetière où reposent les grands noms. Il s'interroge sur sa promenade, solitaire, comme celle des poètes, et sa prédilection... Lui, aux promenades qui ont cours au milieu du mouvement général, la foule, le peuple. Tiens, John Keats, je préfère croire que son dernier vers, nous dit Stéphane Bouquet, son tout dernier vers, et puis silence de la mort, est « This living hand », cette main que voici vivante. Ainsi, dear Keats, se résume pour moi à cette fragilité. Citation de Keats, « Pour qui fut longtemps enfermé dans la ville ?» Il est très doux de regarder le beau visage ouvert du ciel, de murmurer une prière en plein sourire de ce firmament bleu. John Keats, la poésie de la terre ne meurt jamais. The poetry of earth is never dead. Un tel vers m'attache à lui, dit Stéphane Bouquet. Il témoigne que le monde pour Keats est un flux incessant. La poésie de la terre ne meurt jamais. Quand de l'ardent soleil tous les oiseaux sont là et dans les arbres frais se cache une voie court entre les haies dans l'herbe coupée fraîche, celle de la sauterelle. Elle conduit l'exubérance de l'été. Jamais elle n'a fini de se réjouir. Quand elle est lasse de jouer, elle repose au pied d'une aimable herbe folle. La poésie de la terre jamais ne cesse. Sur sa tombe, John Keats, il a voulu écrire « Si j'y quelqu'un dont le nom fut écrit sur de l'eau ». D'une certaine façon, un être est un jeu passager de la lumière et du courant. Ensuite, il rejoint l'eau anonyme. Ensuite se réalise le cher vœu kitsien, notre cher vœu commun, « to fade away, to dissolve », s'effacer, s'évanouir. Je ne puis voir quelles fleurs sont à mes pieds, ni quel subtil encens hésite sur les branches. Mais dans l'obscurité infuse, je devine les senteurs que le mois saisonnier distribue. Tiens, Emily Dickinson. Les papillons rêveurs s'animent, les mares en sommeil reprennent la rumeur du chant tranché de l'an passé. Une à une, d'un vieux fort sur le soleil défilent les baroniales abeilles en bourdonnant peloton. Stéphane Bouquet nous dit « Les majuscules les plus envoûtantes de son œuvre ne sont pas celles qui grandissent Dieu, la crainte, l'horizon ou même nous, mais celles qui élèvent en majesté le rouge-gorge, l'abeille et même et surtout le balai, les miettes. On peut lire cette pratique comme signe d'une profonde pulsion à hypostasier les choses, les êtres, pour qu'il n'y ait plus finalement qu'un conflit d'essence, pour que le monde possède une puissance comparable à celle de Dieu, effroyable. Oh, l'arc-en-ciel ! Venant de la fête, une vision, j'en suis certaine, du monde Cachemire. Mais aussi on peut croire qu'il s'agit pour Emily Dickinson d'atténuer la taille du poète, de l'égaliser avec tout le reste, d'amener l'autour à sa hauteur.
Merci Jacques Bonafé, vous poursuivez votre promenade américaine toute la semaine autour de Stéphane Bouquet.